Sur Radio Galère 88.4 pour l'émission Une heure en Palestine. Je suis Philippe, on enregistre là ce mardi pour l'émission du mercredi 29 octobre et je vais prendre la suite donc de Marie. Marie qui a réalisé la précédente émission, Marie qui est la co-réalisatrice de l'excellent podcast Yalla je t'emmène, a pu donc dans l'émission de mercredi dernier, pour, qu'on peut retrouver en podcast dans le site de Radio Galère, récupérer la première partie de l'enregistrement que j'ai pu faire à Ajaccio alors que nous étions en escale sur la route du Zaatar avec une femme assez extraordinaire là, qui s'est trouvée embarquée dans la fameuse flottille Southern Madeleine to Gaza. Et donc nous sommes allés en Corse sur la route du Zaatar principalement à l'appel du collectif pour une paix juste de Balagne qui a organisé le 18 octobre un très beau concert pour la paix. Et dans ce concert pour la paix, il y avait des hommes, les polyphonistes de Afilette, les musiciens de Accompagne et une autre femme qu'on écoutera qui s'appelle Letizia Giuntini, qui est très célèbre pour être à la fois bergère sauvage dans le maquis avec ses 35 chèvres, mais aussi poétesse, autrice, compositrice et guitariste. Alors avant d'entendre ces voix de femmes, je suis ici donc parce que je fais partie des gens qui animent cette émission avec l'association Palestine 13. Et comme d'habitude, je vous invite à aller voir l'excellent site internet assopalestine13.org qui d'une part diffuse un nombre important d'informations nationales ou internationales qui sont sourcées et qui permettent d'y voir beaucoup plus clair dans cette terrible guerre qui continue entre l'Israël et la Palestine. Et donc l'agenda local dans ce site internet permet de voir que ce samedi 1er novembre, comme toujours à 15h à Aix-en-Provence, se réuniront des gens en bas du cours Mirabeau. Mais le matin à 11h, c'est à Aubagne, à l'appel du collectif Urgence Palestine, qu'une manifestation aura lieu toujours en soutien du peuple palestinien et du peuple gazaoui. Et puis dimanche 2 novembre, c'est le premier dimanche du mois, jusqu'à l'an dernier j'étais au dimanche aux Égalades, à la Cité des Arts de la Rue, mais là avec le stand du Zaatar, je suis au marché du Port-Vieux de la Ciotat. Marché du Port-Vieux de la Ciotat où depuis 77 dimanches vers 10h, le collectif Palestine de la Ciotat se rassemble sur les marches pour bien évidemment alerter sur ce qui se passe en Palestine, mais aussi pour collecter de l'argent pour une famille en particulier qui continue de résister à Gaza. Et ce collectif Palestine La Ciotat organise cette fois tout autour du week-end du 11 novembre. Ça sera donc dimanche 9 novembre, lundi 10, mardi 11 novembre, où on fêtera un armistice au Cercle de la Renaissance, le bien nommé Cercle de la Renaissance, donc à La Ciotat. Un certain nombre d'artistes font don d'œuvres qui seront exposées et qui seront donc à la vente au profit d'une collecte pour Médecins Sans Frontières et le Secours Populaire qui font tout ce qu'ils peuvent pour sauver les gens qui survivent à Gaza et en particulier les femmes et les enfants. Donc là, ça sera au Cercle de la Renaissance. Donc dimanche 9 novembre, il y aura le vernissage à 11h45. Et puis l'après-midi de 15h à 20h, et donc lundi 10, mardi 11 de 10h à 13h et de 15h à 20h. Et ça se terminera mercredi 12. Venez toutes et tous découvrir ces œuvres que des artistes donnent au profit du soutien à la Palestine et à Gaza. Et ces 4 jours-là, il y aura également la possibilité de déguster et d'acheter des produits palestiniens de France Import Palestine, fipsouk.fr, avec le petit stand Route du Zaatar. Alors ensuite, mardi prochain, le 4 novembre, à 19h, on pourra se retrouver à la librairie Transit, l'excellente librairie associative Transit, au 51 boulevard de la Libération à Marseille, pour la présentation d'un nouveau livre. Un nouveau livre qui a été traduit en français et qui s'appelle « Ces chaînes seront brisées ».« Ces chaînes seront brisées », c'est un livre qui collecte des récits palestiniens de lutte et de résistance dans les prisons israéliennes. Donc la version française est éditée aux éditions Armand Caspar. Elle est préfacée par Samar Jarbre et je voulais juste vous lire un extrait de cette préface. « Écrire sur les prisonniers politiques palestiniens n'est pas simplement évoquer le calvaire de personnes derrière des barreaux. C'est écrire l'histoire de la Palestine elle-même. C'est suivre les battements de cœur d'un peuple qui, même enchaîné, résiste à la machine d'une occupation impitoyable et violente. C'est écouter les voix qui s'élèvent des géoles et cellules d'isolement, des salles d'audience où la justice est bafouée, et d'une patrie déchirée par des murs, des miradors et la cruelle logique de la violence coloniale. Donc rendez-vous mardi à la librairie Transit pour découvrir ce livre. Et puis quand on va écouter tout à l'heure Isaline, on va comprendre à travers ce que elle, cette femme corse de 83 ans, a subi dans les prisons d'Israël, ce que peuvent y subir les prisonniers palestiniens. Voilà, puis on continue pour ce mois de novembre qui est très riche. Le lundi 17 novembre, c'est la suite d'une série d'un cycle de conférences sur l'histoire du Liban avec Candice Raymond et bien évidemment coordonnée aussi par l'historienne Liliane Nasser. Donc le lundi 17 novembre, cette fois le rendez-vous c'est au local Union Syndicale Solidaire 13 au 29 boulevard Longchamp. Voilà, on reprendra cet agenda plus tard et donc on va écouter maintenant Isaline Chouri, la suite de son témoignage quand elle a finalement été attaquée avec son bateau en mer et qu'elle arrive au port en Israël. On va entendre ce que Isaline Chouri a subi.
Complètement bousillé, quoi. Oui. Donc, après, arriver au port, c'est plus du tout la même chose. Là, on a affaire immédiatement à des gestes rapides et brutaux. Et le premier commence sur moi, c'est-à-dire mes compagnons ne s'en aperçoivent pas. Dès que j'arrive, immédiatement, on vient me chercher sans brutalité et on me dit « il faut que vous voyez le médecin du port ». Donc moi je dis « bon, il pense que je suis âgée, donc j'y vais ». Le médecin du port me dit « oh là là, il y a quelque chose de grave à votre cœur, il faut absolument faire des examens poussés, on vous amène à l'hôpital ». Là, je me sens pas très mal à l'aise. D'ailleurs, je le prends par le bras, je dis « venez avec moi ». Mais il me dit « non, non, vous verrez, c'est très gentil, il n'y a pas de problème ». Mais on m'avait déjà enlevé mes chaussures, je trouvais ça étrange, et jetais mes baskets. Et j'étais pieds nus. Et puis on me met dans une chaise roulante, et je crois que je vais apercevoir une ambulance. Eh bien non, je vois une voiture de police, et immédiatement, un policier harnaché, qui était d'ailleurs assez effrayant, qui m'attrape et qui brutalement me jette dans la voiture de police et qui me met des menottes en acier, mes deux mains tellement serrées que je peux à peine bouger mes doigts et il tire sur quelque chose pour serrer davantage. Je pousse un hurlement parce qu'il est il va me briser les poignets. Mais là, ils ont une formation, on leur dit de ne pas laisser de traces. Donc ils desserrent légèrement et là, ils commencent à me boxer, à m'insulter et je pars. Et là, je suis courageuse, mais je suis terrorisée par le syndrome de l'enlèvement. Je dis, j'ai dans ma tête des souvenirs de l'Amérique latine, avec les maires de mai qui manifestent, qui le font encore aujourd'hui. Ça fait des années, des années et des années qu'elles s'arrêteront jamais, car elles n'ont jamais su ce que devenaient leurs enfants. Et j'ai dit, mon Dieu, ma famille, je ne reviendrai jamais et personne ne saura où je suis. Et tous mes compagnons, où on a passé tout ce temps ensemble sur le bateau, on s'est entraînés ensemble, ils sont tous ensemble et moi je n'y suis pas. Et personne ne va savoir où je suis. Donc là, je suis terrorisée dans cette voiture, mais je me cramponne et tout de suite, vous savez, c'est le modèle de ma tante. Elle m'obsède. Elle m'obsède parce que dans les situations les plus difficiles, c'était ne pas se laisser... avoir.
Ta tante, je rappelle, c'est Daniel Casanova.
Daniel Casanova qui a vécu les pires souffrances, mais qui est toujours resté digne et combattif. Et c'est lourd à porter, mais quand on est... J'avais pas été dans une situation comme ça. Je pouvais pas être comme ma tante. Mais là, je me retrouve dans une situation où j'ai obligation d'être comme elle. Donc je commence à renforcer mon cerveau. J'ai très peur de l'enlèvement. Mais les coups... Déjà, je commence à les supporter. Je démarre d'ailleurs par une dissociation physique. J'avais appris ça dans ma vie. Quand j'avais mal quelque part, que c'était intense, je pensais à une autre partie de mon corps. Donc là, je prenais un coup dans l'épaule droite, je pensais à ma jambe gauche et je contrôlais. Mais j'arrive à ce moment-là, il n'y a pas d'hôpital, dans une grande salle blanche. C'est angoissant d'ailleurs. Je rentre, il n'y a personne. Je suis avec ce fou et immédiatement rentre un homme en blouse blanche qui me met sur le corps une trentaine de patchs partout. Je me demandais à quoi ça servait, parce que pour le cœur, on ne fait pas tout ça. Et puis après, il me pique, il me dit, il me faut une prise de sang, et je vois dans sa bouteille, il prend 1 cm de sang, et puis il s'en va, et il ne revient plus jamais. Donc là, je comprends que je suis enlevée et aux mains de ce fou. Donc là, j'ai dû apprendre une autre dissociation, c'est la dissociation mentale. C'est-à-dire qu'il me harcelait, il sautait autour de moi, il criait et il regardait son téléphone pour traduire en français, pour être sûr que j'encaisse le coup. Et c'était grossier, espèce de pute, espèce de pute. Et après, il sautait comme un animal en tournant autour de moi et en disant « Bienvenue en enfer, bienvenue en enfer, bienvenue en enfer ». C'est assez lourd à encaisser. Et là, j'ai fermé mes yeux et je me suis récité en boucle dans ma tête plein de phrases de ma tante quand elle était en situation difficile. Et ces phrases étaient toujours positives et courageuses. C'était « si je n'ai plus au-dessus de ma tête mon soleil de Corse, je suis calme et solide ». Ou alors « la souffrance n'attriste pas, elle donne des ailes ». Ou alors « vois-tu, ils peuvent nous tuer ». Mais de notre vivant, ils ne pourront jamais nous ravir la flamme qui réchauffe nos cœurs. Donc tout ça me tournait en boucle. À l'heure actuelle, c'est une fierté que d'être emprisonné. Enfin, je récitais tout ça et puis je disais, je suis encore vivante, j'ai la force de supporter, mais s'ils me font ça à moi, qu'est-ce qu'ils font à ces prisonniers palestiniens? Et là, je revoyais la souffrance du peuple palestinien. Je me disais, moi, je suis encore en vie, je suis costaud, je vais m'en sortir. Et eux, et eux, et eux. Et cette dissociation psychique, avec les yeux fermés, m'aidait à supporter. Pendant ce temps, je ne l'entendais plus. Mais lui, il voyait bien que je fermais les yeux et que je me concentrais. Donc, il me braquait des... Je ne voyais rien, moi. Je ne sais pas ce que c'était, mais des lumières très fortes qui m'arrivaient dans la figure en hurlant « Open your eyes, open !» Donc, j'ouvrais mes yeux. Mais immédiatement, je les refermais et je recommençais. J'ai tenu une demi-heure comme ça. Wow. Vous imaginez dans quel état j'étais. Après, il m'a jeté brutalement dans la voiture, continué à me boxer dans la voiture et hurler des insanités. Je suis enfin arrivée sur le port où mes compagnons avaient fini, eux, leur calvaire, car eux-mêmes ont été molestés. Et j'ai su que certains, on leur avait dit les mêmes mots que moi, « Bienvenue en enfer, bienvenue en enfer », avec une délectation sadique. Hein. Mmh. Alors eux, leur souffrance, on les mettait à genoux, mais pendant 2 heures à genoux, vous savez, ça, c'est dur. On leur disait de baisser la tête, mais les gardes passaient, et si la tête n'était pas assez bas, ils poussaient la tête pour que le front touche le sol, un sol brûlant, c'était une étuve. Donc eux-mêmes, certains ont pris des coups de poing. Et puis il y a eu surtout la jeune qui, elle, a été humiliée, déshabillée.
La jeune Greta Thunberg.
Oui, on l'a obligée à embrasser le drapeau israélien, etc. Mais j'ai été la seule qui n'avait plus de bagages. Car ils ont tous retrouvé leurs bagages, même elle, sa petite valise rouge, ils avaient mis les insanités, mais elle avait ses bagages. Pourquoi moi, je n'ai pas eu mes bagages, je n'ai pas eu mes chaussures? Sur le port, j'étais pieds nus, et j'ai trouvé une de mes tongs qui était tombée de mon sac. Et j'ai cherché l'autre désespérément, heureusement j'ai trouvé la deuxième par terre. Elles étaient immondes, et moi je n'avais aucun vêtement de rechange, et j'avais des tongs et c'est tout. Et je n'ai jamais récupéré mes bagages. Pourquoi j'ai eu ce sort particulier, je ne sais pas. Affolée, moi j'avais encore les menottes. Je les ai gardées 1 heure et demie, avec mes mains comme ça. Et je les ai montrées, je voyais mes amis s'en aller, je voulais qu'ils restent, je voulais leur raconter mon histoire. Je montrais que j'avais des menottes, mais chacun venait de sortir d'un enfer. Donc ils m'ont juste à peine regardé, puis chacun était dans son trip à lui. Et à ce moment-là, j'ai vu un juge. Les autres avaient fini, avaient passé le juge. Et j'ai vu un juge, c'était une femme, et la question c'était « Pourquoi vous avez embarqué dans la flottille ?» Je n'ai pas voulu développer, parce que sinon elle m'aurait fait parler longtemps. J'ai dit « Humanitaire, humanitaire ». Et à ce moment-là, elle m'a dit « Est-ce que vous voulez rentrer ?» Or, on nous avait préparé à ça. On nous avait dit « Il y a 3 textes. Les 2 premiers, il ne faut pas les signer. Le 3e, vous dites simplement que vous voulez rentrer. » Mais il ne marquait pas ce qu'il y avait avec les précédentes flottilles. Vous reconnaissez que vous avez été arrêté dans des eaux territoriales. Donc, décision avait été prise sur le bateau, qu'on n'avait pas assez d'avocats, qu'il fallait que la majorité rentre et qu'il reste un petit groupe, qui d'ailleurs a été libéré 2 jours après nous. Hein. Mais on savait qu'il serait libéré. Mais il en fallait beaucoup qui rentrent pour témoigner et également parce qu'on n'avait pas assez d'avocats. Quant aux Israéliens, à la longue, ils n'ont plus de prison. On était 140. Si on restait tous, eux, ils étaient pressés qu'on parte. Donc, je signe le papier. Je signe le papier et à ce moment-là, on est embarqués tous dans des espèces de camions de police. C'est assez dur parce que c'est très serré, on est entassés. Et malheureusement, il y en a qui n'avaient plus de place et qui mettaient dans des cabines isolées. Et eux n'avaient qu'une porte en fer. Je les regardais, je regardais leur porte en disant, moi qui suis claustrophobe, heureusement que j'ai embarqué à temps et que je suis dans la pièce commune. On avait des grillages avec des tout petits trous. On essayait de voir à travers les trous. Ça a duré. Je ne peux plus me rappeler la durée, mais ça paraissait très long. Et ils coupaient la clim. Donc, il y avait une souffrance épouvantable. Non, mais auparavant, j'ai oublié de vous raconter pendant que. Non, non, c'est ça. C'est ça. Donc, on avait cette clim qui ne marchait pas. Et mes amis, comme ils savaient que sur le pont du bateau, pour tromper les petits jeunes soldats, je faisais semblant d'étouffer, ils m'ont dit, fais-nous ta comédie. Donc, je suis tombée en arrière. J'ai fait comme si je suffoquais. Ils ont poussé des cris, ça va pas, ça va pas. Les Israéliens ont regardé, ils m'ont vu inanimée, ne respirant pas, faisant quelqu'un qui est en train d'étouffer. Ils ont vite branché la clim. Donc mes amis ont dit continue encore un peu, parce qu'ils espionnaient pour voir si c'est une comédie. Donc j'ai continué mon cinéma un petit moment. Puis quand je me suis arrêtée, ils ont regardé, toc, ils ont recoupé la clim. Donc vraiment, ils avaient un côté sadique.
Oui.
Le côté sadique, je l'ai vu dans ma torture, je l'ai vu sur ce qu'ils ont fait à tous mes compagnons, et je l'ai vu dans cette voiture. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire? Ils nous amenaient en prison, de pas nous étouffer avant.
Oui. En
On
fait.
arrive dans cette prison, et là, ça a été la chose la pire, cette prison. Parce que cette prison, je revoyais la déportation, celle des nazis. On avait des bracelets au poignet avec un numéro. Ils ont fait des appels avec des numéros. Tout ça ressemble. Et ils nous ont fait des séances de désorientation. Je suis encore aujourd'hui désorientée. C'est la seule trace qui me reste. J'ai réussi peu à peu à sortir du cauchemar. Mais la désorientation, je l'ai encore. Ils se mettaient derrière nous. On était tous en uniforme et on devait avoir une ligne droite. Et ils criaient Go! En pointant avec le doigt. On avançait, mais à peine on avait fait 3 pas, ils hurlaient comme si on s'était trompé. Et ils nous faisaient tourner. Et ils recommençaient le cirque. On a tourné comme ça dans cette cour, on ne savait plus où on était. Ça, j'appelle ça de la déshumanisation et de la torture mentale. Dans nos prisons, les locaux étaient trop petits et il n'y avait pas assez de lits et il n'y avait même pas assez de matelas. Certains dormaient par terre. L'eau coulait rouge au robinet. On n'avait rien à manger. Et on n'avait pas de bouteille d'eau. Certains avaient des médicaments, dont moi, et bien entendu, on nous avait tout pris. Moi, j'avais aucun médicament et j'avais toujours cette petite gêne à l'épaule due à un vaccin. Donc, d'autres, c'était plus grave, il manquait d'insuline. Et on réclamait des médecins, rien à faire. On était traités comme du bétail. À nouveau me revenaient en tête les descriptions de ma tante dans le camp de concentration. On les traitait comme du bétail. Et là, on voulait nous enlever. Alors je me répétais à nouveau ce qu'elle disait dans le train en allant à Birkenau. Elle disait à ses compagnes, on va garder notre dignité. Ils ne peuvent pas nous avoir. Il faut ignorer leur brutalité et on va rester des femmes et des êtres humains. Et elle est rentrée dans le camp de Birkenau en chantant la Marseillaise avec 230 femmes. Donc tout ça m'aidait, moi. Et je me sentais de plus en plus forte, même si physiquement, c'était dur à endurer, mais mes compagnons aussi. Après ça, on demande la visite du con le consul demande à nous
Et
voir.
alors, attends, du coup, ce traitement inhumain en prison, il a duré combien de jours?
4 jours.
4 jours, eh
Oui,
oui, et
oui.
4 nuits. Ça fait long, ça
Oui,
commence à
c'est
faire
long.
très long.
C'est long. Pas la dernière nuit.
Oui.
Je crois qu'on a fait 3 nuits et
Ok,
4 jours.
d'accord.
Et dans la journée, on nous a embarqués. Donc, le consul arrive, mais on nous met dans la cour. Et c'est là où on a revu les hommes, parce que toutes les femmes étaient ensemble et les hommes séparés. Dans la cour, il y avait des immenses rectangles grillagés, avec du barbelé d'ailleurs, à l'intérieur. On avait peur de s'écorcher parce qu'il y en a qui descendaient sur les côtés. Et nous, on nous met dans une de ces cages. Et on attend 1 heure et demie assis par terre, en plein soleil, en plein cagnard, avec une chaleur d'enfer, sans eau. Et on s'inquiétait de ne pas voir le consul. Enfin, le consul arrive et il dit, je dois rencontrer, c'était la députée LFI écologiste, et ensuite je viens vous voir un par un. Donc on attend encore très longtemps. Et on sue de plus en plus, et jusqu'au malaise, hein, parce que c'est vraiment insupportable. Et quand enfin on voit le consul revenir, il est tout ébouriffé, et il se fait repousser par les Israéliens qui lui interdisent de venir nous voir. Alors il y a une dame du consulat qui vient nous donner des barres, j'en ai ramené une en souvenir là, des barres de.
Des barres de céréales?
Non, pas de
Non, quand même
céréales,
pas.
des barres
De protéines,
de
d'accord,
protéines
oui.
et une petite bouteille d'eau chacun. Et puis elle s'en va. Et là, on nous met dans ces fameux camions pour nous amener à Istanbul. Et le trajet est très long, on a chaud et tout. On
Attends,
arrive à
attends,
Istanbul.
finalement, les secours légitimes que vous auriez attendus de l'autorité
Non, non,
française,
non,
en
non,
fait,
non,
pas
non,
du tout.
non. Alors évidemment,
Une
le
barre de
consul,
protéines et une bouteille
il
d'eau.
donnait l'impression, mais parce que les Israéliens se croient tout permis,
Oui.
ils n'obéissent pas aux moindres consignes, ils sont dans l'illégalité quand ils empêchent des soins des prisonniers. Mais
Exactement.
le consul n'y pouvait rien.
Oui.
C'est pas là que je le renvoie au consulat, parce que là, il se fait rejeter.
OK.
C'est plutôt pour la suite. On arrive à Istanbul, un accueil, moi qui n'aime pas Erdogan, je dois souligner l'accueil chaleureux qu'on a eu par les Turcs, et qui tout de suite. On fait beaucoup de choses pour nous. Et là, il y a le consulat de France en Turquie. Et là, j'ai pas compris. Premièrement, on est tous sans argent, sans carte bleue, sans rien.
Ah
Et
oui.
moi, sans valise et sans vêtements. Et le consulat me donne un petit sac avec un t-shirt, une culotte et une brosse à dents. Bon, d'accord. Et puis, il y a des petits fauteuils et elle me dit, vous bougez pas.
Voilà, donc on va laisser reprendre son souffle à Isaline Choury, hein, que je suis en train d'enregistrer à Ajaccio. Et j'ai rencontré Isaline parce que donc avec la route du Zaatar, nous sommes allés en Balagne, à Pigna, où avait lieu un concert pour la paix. Et avec les hommes d'Affiletta, avec les hommes d'Accompagna, on a découvert, pour ceux qui ne la connaissaient pas encore, la magnifique bergère, poétesse, autrice, compositrice qui s'appelle Letizia Giuntini. Et on va entendre de la part de Letizia une chanson qu'elle avait enregistrée en studio à Radio Corse Frequenza Mora. Et ensuite, on retrouvera Isaline Choury. On écoute Letizia.
RCFM, incanto.
Adormente l'uomo gabbro e si inclina l'uso gabu in terra misatinata l'umio mondo si è firmato un vento le ludramanda un antico musco di mandria. Dio dica di ho scelto lo giorno a ridere al pastorello per conoscere il mistero ed è pronta a insegnarlo dal lume o partimo te Deo per lui cammino il lato sorte si è stato primo condannato come capretto sacrificato. Da tua mandia a una famiglia sana, dall'ottanta una lupi tiugu in un paese cassani che si pesa la tua anima. A cacciati l'ultimo soffio, se tu che fai corsi di riondie, domani dal lume osimo parto di te, Dio, per lui cammino il lato sorte. primo condannato, o mo capre tu sacrificato.
Voilà, merci à Radio Corse Fréquence Amor qui avait enregistré en studio la bergère guitariste, autrice, compositrice Laetitia Giuntini qui dans le maquis fait le maximum pour s'occuper de ses 35 chèvres et qui elle aussi lutte farouchement pour sa liberté, pour le bien-être de ses chèvres. Et donc on va retrouver Isaline Chouri et qui elle avait témoigné pendant ce magnifique concert pour la paix en Balagne de son incroyable périple. Parce qu'elle s'est engagée sur la Southern Madeleine to Gaza, sur la flottille. On l'avait laissée donc après ses pérégrinations en Israël. Et là, cette fois, on la retrouve en Turquie. On continue d'écouter Isaline Chouri.
Et elle me dit, vous bougez pas, on réunit les Français. On va s'occuper des Français. J'apprends qu'ils veulent pas payer le rapatriement. On n'a rien, on peut pas s'acheter le billet. C'est donc ma fille qui prend un billet d'avion pour moi pour que j'aille à Paris. Et il y a une foule de photographes et de caméras qui attendent. Moi, je passe à côté, les gens me tendent et la femme du consulat me tire par le bras et me dit « pas maintenant, pas maintenant, il faut d'abord qu'on ait réuni les Français pour s'en occuper ». Au début, je la crois, mais après, dès que j'essayais de bouger, elle me courait derrière pour me reprendre en disant « non, il faut attendre, il faut attendre ». Elle ne voulait pas que je parle à la presse.
Voilà, en fait,
qu'on m'empêchait de témoigner.
Voilà, entre guillemets, tu étais presque re-kidnappée, mais oui, cette fois par une autorité française, t'empêcher de témoigner devant les caméras internationales.
Voilà. Parce que j'avais fait une lettre au président. Ce qui les gênait, c'est que je mentionnais toujours la lettre publique que j'avais envoyée au président de la République qui me connaissait. Une lettre où je décris l'horreur de Gaza, vous avez vu ces enfants sans jambes et sans bras qui ne réclament que d'avoir une prothèse, vous avez vu ces enfants qui lèchent des pierres pour avoir une goutte d'eau, on l'a tous vu ça, je dis. Donc, voilà pourquoi j'embarque sur la flottille et je vous préviens qu'il y a des Français sur cette flottille et que vous n'avez pas protégé la flottille Soumum et que des Français sont actuellement en prison pour terroristes. Donc, je m'appelle Isaline Chouri, on s'est connus à Ajaccio, on a déposé la gerbe devant la plaque Daniel Casanova. Je suppose qu'au moins vous respectez la première de ses valeurs, qui est les droits humains. Dans ce cas-là, je demande à mon président de la République une protection. Pour moi, les Français et les autres membres de la flottille qui sont dans une mission humanitaire légale. Et je dis... Vous ne pourrez, s'il arrivait quelque chose à l'un d'entre nous, vous ne pourrez pas dire « on ne savait pas ». Donc je l'ai mis en demeure. Or, il m'est arrivé quelque chose. Donc j'ai été surveillée par le consulat, j'en suis sûre. Parce que pourquoi il m'empêchait de parler? À un moment donné, j'ai dit « je veux fumer une cigarette », elle n'a pas eu le temps de m'attraper, je suis sortie. Et là, il restait une télé sur les 40. C'était l'agence turque qui m'a longuement interviewée. Mais après ça, on fait un voyage... Les Turcs donnent des vêtements aux hommes. D'ailleurs, c'est marrant, il n'y avait pas pour les femmes. Et moi, j'essaye, je n'ai pas de chaussures. Je voulais prendre des chaussures, mais la plus petite pointure était 40, je fais un petit 38. Donc, je reste avec mes tongs. Mais ils me donnent une couverture. Ils nous font un repas. On n'avait pas vu de bons légumes depuis une éternité.
Ils, c'est-à-dire pas les autorités françaises, non, mais les autorités turques.
Et voilà. Alors, moi, ils me laissent m'asseoir dans les places premières. Avec un journaliste, en fait, qui dit... un médecin, il est médecin. Il dit, moi, je suis près d'elle, parce que j'avais été très frappée. Hein. Oui. J'étais en mauvais état, j'avais toujours pas de médicaments, là. Donc, je souffrais, mais des souffrances intolérables qui me montaient jusqu'à la nuque. Hein. Donc, on s'installe en première, et je crois que c'est parce qu'on est en première. Mais non, tout l'avion a eu le même menu que nous. C'était extraordinaire, avec plein de petits ramequins, des légumes frais.
Oui, ben c'est sûr qu'après tous les jours et les nuits passés en mer, avec là, ça devient merveilleux.
Mais arrive l'arrivée à Paris. L'arrivée à Paris, je ne peux pas penser, moi, que j'ai eu un comité de soutien, puisque je n'ai rien dit à personne. J'arrive avec deux jeunes qui étaient avec moi, deux jeunes Français, et les autres, chacun se dispatche ailleurs. Donc... je pense juste retrouver ma fille. Je n'ai pas d'argent, Je n'ai pas de téléphone, mais il est convenu qu'elle m'attend au premier endroit où on débarque. Et là, sans même descendre l'échelle de coupé, deux policiers m'arrêtent à la sortie de la porte de l'avion et me demandent mon passeport. Je comprends pas, mais je donne mon passeport, je suis française. Ils le prennent et ils disent « Suivez-nous ». Et là, je dis « Mais pourquoi ?»« Suivez-nous, c'est pas grave, ça va aller très vite, on veut vous parler ». Ça me choque un peu, mais j'ai pas le choix. C'est deux policiers harnachés.
Donc, deux policiers français.
Attends.
Finalement, tu te retrouves d'une part avec le consul qui ne peut absolument rien faire, le consul de France en Israël. Ensuite, tu te retrouves mis à l'écart en Turquie parce que les autorités françaises ne veulent pas que tu témoignes devant les médias internationaux. Et retourner sur ton propre sol, tu te fais encore presque kidnapper par des policiers français.
Je ne pense pas avoir de comité de soutien, j'ai rien dit. Mais j'ai hâte d'être dans les bras de ma fille pour qu'elle me donne des chaussures, pour qu'elle me donne des médicaments. Je souffre un enfer, il fait un froid de canard. Et là, ils me conduisent et j'attends dans une petite salle d'attente où ils doivent contrôler les papiers des gens. Il y avait des gens avant moi. Et ils commencent à me faire attendre. Et là, je proteste, je décris ma situation. Je dis, ma fille, si elle ne me voit pas, elle ne va pas paniquer. Au bout d'un certain temps, elle va partir me chercher dans l'aéroport pensant que je me suis évanouie. Et elle ne pourra pas me contacter, je n'ai pas de téléphone. J'exige que vous me relâchiez. Alors là, ils me prennent, ils ne me font plus attendre. Et commence un interrogatoire. Comme si j'étais une terroriste.
Oui.
L'interrogatoire, c'est qu'est-ce que vous faisiez dans ce bateau ? Alors, mon grand truc, c'est de dire qu'un mot, même pas d'article. Humanitaire. Et je ne dis plus rien. Qui vous a embauché ? Donnez-nous des noms. Et là, j'ai trouvé que c'était un scandale. Je me suis mise à crier. Vous n'aurez plus un mot de moi. J'exige un avocat. Si vous n'avez rien pour m'inculper, j'exige ma libération immédiate. Et ils ont traîné, ils essayaient de me faire parler, je ne parlais plus, et je criais, je veux un avocat.
Et attends, ils m'ont relâché. Attends, est-ce que pendant tout cet interrogatoire, presque encore plus terrorisant finalement, ils ne t'ont même pas non plus amené, je dirais, un médicament à boire,
même pas un verre d'eau,
en France.
En France, à Paris, je suis une Française, j'ai un passeport, j'ai fait une mission qui est entièrement légale, j'ai été torturée par des terroristes, qui m'ont arrêté illégalement, et la police de mon pays m'arrête. Donc ça, c'est un véritable scandale.
Je criais. Oui, mais ça a un mot, tout ça. La police est complice, voilà, tout simplement.
Bien sûr.
Mais les négationnistes actuels ne veulent pas entendre.
Je ne savais pas que j'avais un comité de soutien. Et j'ai su par la suite qu'ils venaient et ils voulaient faire enlever les affiches, les pancartes et les drapeaux. Donc il fallait me garder longtemps pour que je ne puisse parler à personne à l'arrivée. Donc ils m'ont relâché. Et là, c'est la première fois où j'ai lâché mes nerfs parce que, au lieu de voir juste ma fille, il y avait ma fille, ma petite-fille, son mari, qui est musulman, et mes deux arrière-petites-filles, et une foule autour qui hurlait. Et là, j'ai craqué, je pleurais, quoi.
Ça fait énormément de...
J'avais froid, d'émotion. J'avais mal, j'étais vraiment handicapée physiquement. Et là, je ne sais même plus ce que j'ai dit, j'ai un peu bafouillé pour raconter ce qui m'était arrivé, et... la petite fille, mon arrière-petite fille qui avait 4 ans et demi, les yeux exorbités de fierté, et celle qui avait 7 ans, elles m'ont fait des dessins sur l'arraisonnement du bateau. Parce qu'elles ont regardé la flottille, elles étaient fières, et elles m'ont dessiné l'hélicoptère, les cordes, les gens qui viennent nous kidnapper, elles me font moi en toute petite dans un coin, elles mettent tous les drapeaux. Donc la petite de 4 ans et demi, elle avait marqué « Bravo Isaline » sur son dessin. Mais l'autre de 7 ans, qui était une fille très émotive et qui comprend toute l'histoire de Gaza, tout à coup elle entend des cris. Mais les cris, c'était très bruyant, des applaudissements, des cris, des Free Palestine. Mais elle n'entend plus ce qu'ils disent et elle est prise de terreur. Elle dit à son père « Je rentre à la maison. » Alors elle, justement, je vais enchaîner en disant que suite à tout ça, pour moi, la lutte continue. La lutte continue parce que rien n'est réglé. Rien n'est réglé parce que je ne comprends pas comment on va mener des négociations avec Israël alors qu'il doit être en prison. C'est un génocidaire. On doit le sanctionner et le mettre en prison.
Tu parles de l'actuel Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Et puis, bien sûr, de ces ministres fascistes.
Ministres fascistes qui sont auprès de lui, qui récemment ont eu, sans vergogne, le culot de dire « On négocie avec Trump ». parce que c'est nous qui avons payé le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est la destruction. Nous avons détruit Gaza, ça coûte cher, donc on doit avoir plus que les Américains, parce que la reconstruction est moins chère que la destruction. Entendre un discours pareil, on va négocier avec ces gens-là. Donc je suis indigné. Et avec la négociation, avec Trump aussi, qui soi-disant a envoyé un émissaire à Gaza, pour, en Israël, pour dire à Netanyahou, interdiction de reprendre la guerre, mais Netanyahou continue à tirer.
Bien sûr.
Netanyahou a dit, si le plan de Trump n'est pas appliqué, je finirai le boulot.
Ah, mais de
c'est-à-dire
toute façon,
je tuerai tout ce qui reste.
Oui.
Donc on vit sous la menace d'un fou, et je repense moi là, à mes 3 enfants, à mes 13 petits-enfants et à mes 4 arrière-petites-filles, si on perd Gaza, c'est l'humanité entière qui perd. On va être dans un monde sans institution internationale, sans l'ONU, sans le TPI, puisque ces gens-là les attaquent. Et ça va être la loi de l'armée la plus forte, et on va finir avec une 3e guerre mondiale. Et je ne veux pas de ce monde-là pour mes enfants, car la petite fille de 7 ans qui est émotive, quand je suis partie, elle était fière de moi et elle disait « Bravo Isaline ». Quand je suis revenue et qu'elle a eu peur à l'aéroport, ses nerfs devaient lâcher, elle m'a dit « Mais moi, mon papa, il est arabe, alors on va me faire la même chose ?» Et là, j'ai été bouleversée. J'ai dit « Moi, je ne laisse pas ce monde-là à mes enfants ». Donc, ils ont cru m'anéantir là. Mais je peux vous dire que je pars plus combattante que jamais et j'espère aller à un procès. Mon avocat demande une enquête pour savoir qui a donné des ordres aux policiers français. C'est gravissime. Ils ont maltraité une Française qui revenait, qui aurait dû être protégée, qui n'a pas été protégée, qui a été torturée à son arrivée dans son pays. Elle n'a rien fait d'illégal et on la maltraite. Attaque le policier israélien et de qui il a ses ordres pour la torture que j'ai subie. Car j'ai 2 certificats médicaux. Si je vous en donne que les grandes lignes, on demande radio des cervicales, radio des 2 épaules. J'ai eu des maux dans le ventre, atteinte de traumatisme grave. J'ai même eu des problèmes labiaux. Ma langue se collait à mon palais et je n'avais plus de... Mes lèvres se collaient, je ne pouvais plus parler. Donc j'ai un traitement de 6 médicaments, des neuroleptiques, tout. Je les ai pris. Je croyais être entièrement guérie jusqu'à hier, ces 2 derniers jours. Malheureusement, hier, j'ai applaudi au restaurant.
Oui.
Et en applaudissant, j'ai redéclenché ma douleur
Alors,
sur le bras, mais pas encore à la nuque.
Oui.
Donc, si vous voulez, on va fournir ce certificat du médecin, puis le certificat de la psychanalyste qui dit dans quel état elle m'a trouvé. Les dissociations mentales que j'ai faites, elle dit que ça s'appelle un mantra et que ça m'a peut-être sauvée. Elle parle de la durée. Ils me mettent 30 jours d'ITT. Moi, je ne connais pas ce mot. Je n'ai jamais pris d'ITT.
Oui.
Mais il paraît que c'est le sommet. 30 jours d'ITT, des radios, des massages, des médicaments n'en plus finir. Et ils me prévoient d'avance des médicaments contre la dépression qui risquent d'arriver après coup pour pas mal de temps avec un suivi quand mes nerfs vont relâcher.
Écoute, Isaline, on est en discussion depuis presque 1 heure et j'ai presque des scrupules de continuer à te faire ce témoignage fantastique. On est le 21 octobre, ça fait seulement 1 mois et 8 jours, hein, puisque c'était le 13 ouais. septembre que des bateaux sont partis de Corse. Et donc, je suis avec les micros de Radio Galère. Je sais que tu as prochainement encore des interviews, des actions. Voilà. Moi, ce que je souhaite, je comprends qu'à peine 1 mois et 8 jours plus tard, tu es déjà à l'attaque au niveau juridique contre notre propre président et contre un certain nombre d'autorités. Et pour résumer, finalement, cet État d'Israël est un État fasciste, mais vraiment terroriste. Et qui, sans vergogne, qualifie tous les autres de terroristes. Mais l'État d'Israël, mais notre État aussi. Oui. C'est-à-dire qu'en France, toutes celles et tous ceux qui soutiennent non pas une histoire de guerre de religion, non pas un conflit, mais une abomination colonialiste, nous traitent, nous, de terroristes, etc. Voilà. Donc écoute, Isaline, moi ce que je souhaite, c'est que petit à petit, tu digères, entre guillemets, tout ce que tu as subi. On a vraiment absolument besoin de gens et surtout de femmes comme toi. Je comprends que dans toute ta descendance, les 4 plus jeunes, ce sont des filles. Et donc, j'ai vraiment le frisson en terminant cette interview, en pensant à toi, en pensant à Daniel Cazenave, en pensant à tes petites filles. Voilà, c'est pas possible qu'en Europe, en France, en Corse, on laisse tomber les bras. Mais il faut avoir beaucoup, beaucoup de courage. D'abord, pour être engagé dans ce dans quoi tu t'es engagé. Je sais que prochainement, tu interviens encore dans un lycée. Enfin, bref. Prends soin de toi, Isaline. Merci infiniment
je
pour tout ce que tu transmets.
Je voulais juste ajouter l'hommage à un policier français.
Ah.
Corse.
Oui.
Car quand j'ai eu ce comité d'accueil, tout à coup, vers la fin, un policier assez costaud et grand s'approche de moi. J'ai dit, oh mon Dieu, ça va recommencer comme à Paris. Pas du tout. Il vient, il me serre la main, il me prend dans ses bras. Et ça, je suis à nouveau fière de ma Corse.
Oui.
Donc, quand j'ai... Immédiatement, je suis retournée devant la préfecture pour notre rassemblement hebdomadaire. Et là, quelqu'un me dit, viens vite, les policiers veulent te parler. Dans une voiture, il y avait deux policiers qui sont venus, qui voulaient me remercier d'avoir dit publiquement qu'un policier m'avait serré la main. Donc, eux-mêmes étaient en train de me soutenir.
Oui.
J'ai dit, ouh, mais là, en Corse, notre mentalité de notre île, peut-être qu'elle est en train de revenir, il faut que je travaille encore plus et je vais militer encore 100 fois plus parce
oui.
qu'ils mourront jamais.
Non, voilà. Ça c'est sûr. En tout cas, prends soin de toi, le monde en général, la France a besoin de gens comme toi, comme nous. Et voilà, le but c'est de transmettre. Voilà. Tu as eu reçu des parents, de Daniel Cazenave, de plein de gens, des témoignages, jeunes filles. Et comme ça a été fait dans la bienveillance, tu n'as pas de haine, tu n'as pas de... Voilà, tu es simplement une femme qui souhaite jusque au bout de ses énergies vivre pour le droit des hommes et des femmes. Et merci beaucoup, Isaline. A presto. Arin grazia.
Merci à toi. A presto.
Voilà, merci à Sidi qui nous aide à monter ces enregistrements qui sont très précieux. Donc on écoutait Isaline Chouri qui racontait ce qu'elle a vécu à terre après avoir navigué sur la flottille 1000 Marine to Gaza. Et je vous invite à réécouter l'émission du 22 octobre pour voir ce qu'elle avait vécu en mer. Voilà, on va écouter maintenant une autre voix féminine, c'est Rislaine, qui a travaillé pendant 3 ans lorsque la boutique Yabladi, des produits palestiniens de Fipsou, qui était ouverte à Marseille. Et Rislaine s'applique à nous expliquer comment on peut agir contre ce qui est fait par la colonisation illégale en Cisjordanie, comment on peut agir à travers le boycott, à travers les boycotts de produits israéliens, mais aussi à travers le boycott de sociétés multinationales qui investissent dans les colonies illégales en Cisjordanie. Donc on écoute Rislaine à propos du boycott et aussi qui est coordonné par la campagne internationale BDS Boycott des investissements solidarité.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est Rislaine et comme d'habitude, je vais vous parler du boycott et le sujet d'aujourd'hui, c'est le boycott culturel. Et ensuite, nous aborderons l'actualité du boycott en général, ainsi que les pertes qu'il entraîne actuellement. La culture ne doit jamais servir à blanchir l'injustice. Trop souvent, les artistes internationaux acceptent de se produire dans des institutions culturelles israéliennes. Ces institutions ne sont pas neutres. Elles font partie intégrante du système idéologique et politique qui soutient l'occupation, la colonisation et l'apartheid contre le peuple palestinien. Lorsqu'un artiste joue à Tel Aviv ou participe à un festival parrainé par l'État d'Israël, ce n'est pas un acte anodin. Ces événements sont utilisés par le gouvernement israélien pour montrer au monde une image fausse, celle d'un pays normal, ouvert culturellement, dynamique. Mais derrière cette façade se cachent des murs, des checkpoints, des bombardements et un peuple privé de liberté depuis des décennies. La musique, le cinéma, le théâtre et les arts en général doivent être au service de la liberté, pas de l'oppression. C'est pourquoi la campagne BDS appelle à un boycott culturel, pacifique et conscient. Cela signifie ne plus suivre les artistes qui se produisent dans des institutions israéliennes. Ne plus financer par nos achats ou nos vues ceux qui contribuent à la propagande d'un État colonial. et au contraire, donner de la visibilité aux artistes engagés et à celles et ceux qui refusent de se taire face à l'injustice. Le boycott n'est pas un geste de haine, c'est un geste de solidarité. C'est une manière de dire « tant que la liberté et la dignité du peuple palestinien ne seront pas respectées, nous refusons de participer à la normalisation de l'oppression ». Pour suivre la campagne, connaître les artistes et les événements concernés, rendez-vous sur bdsfrance.org, rubrique boycott culturel. Vous pouvez aussi rejoindre BDS France, ici même en Provence ou ailleurs, pour agir concrètement et collectivement. Passons au boycott des entreprises. La LDH porte plainte contre Airbnb et Booking. Qui est la LDH ? La Ligue des droits de l'homme, dont le nom complet est la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, est une association engagée dans la protection des droits humains, fondée en 1878 pour défendre le capitaine Dreyfus, injustement accusé. Elle œuvre depuis lors pour la promotion de la justice, des libertés fondamentales, ainsi que des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle lutte également contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Pour la Ligue des droits de l'homme, ce tourisme d'occupation soutient la colonisation, favorise le déplacement forcé des Palestiniens et viole le droit international. Elle appelle la France à appliquer la résolution de l'ONU du 18 septembre 2024, qui pose des obligations à l'égard des États membres pour faire cesser l'occupation illégale par Israël des territoires occupés et faire pression sur les entreprises pour qu'elles cessent toute activité commerciale avec les colonies. Cette action s'inscrit dans la continuité des démarches de la LDH pour défendre les droits du peuple palestinien et dénoncer toute complicité avec la politique coloniale et répressive du gouvernement israélien. Une paix juste et durable passe par la reconnaissance de la dignité, de la justice et de l'égalité du peuple palestinien. Encore plus de boycott, le régime génocidaire est aujourd'hui confronté à une pression internationale de plus en plus forte, accompagnée de multiples boycotts économiques et culturels. Plusieurs entreprises et chaînes internationales semblent réagir à cette situation. Par exemple, Carrefour a annoncé son retrait de plusieurs pays arabes. Selon différents médias, de son côté, la chaîne de restauration israélienne Shuk aurait fermé certains de ses établissements. En tant que militants, citoyens, engagés, nous demandons l'arrêt immédiat de toute collaboration et investissement soutenant l'État génocidaire. Le régime génocidaire. Et l'application de sanctions ciblées contre toute personne, entreprise ou institution qui alimente, finance ou régime ou légitime, ces crimes. Nous exigeons des mesures concrètes.
Voilà, merci à Rislaine qui s'applique chaque fois que c'est possible à nous proposer une chronique donc sur le boycott des produits israéliens. Merci et des compagnies multinationales qui investissent de façon scandaleuse dans les colonies d'occupation illégale en Cisjordanie. Merci à Marie qui est absente aujourd'hui, mais qui chaque fois qu'elle le peut participe au montage et à la diffusion des émissions Radio Galère sur en Palestine. Marie, je le rappelle, qui est la co-réalisatrice de l'excellent podcast Yalla, je t'emmène en Palestine, qui est disponible sous toutes les plateformes. Merci à Isaline Choury, à qui à 83 ans a donc embarqué sur cette flottille qui avait pour but de créer de façon légale, parce que c'est la loi, un corridor humanitaire maritime pour subvenir à ceux qui survivent encore au génocide à Gaza. Et donc, nous continuons un petit peu à l'agenda de ce mois de novembre qui est extrêmement riche. Donc aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre et le 29, dans un mois pile, nous serons donc le 29 novembre. Et le 29 novembre, depuis des décennies, c'est la journée internationale de solidarité pour le peuple palestinien. Et donc en France, à l'appel d'un nombre très important d'organisations, est appelée donc une manifestation nationale unitaire le 29 novembre. Alors ça sera à Paris. Place de la République, rendez-vous à 14h, mais bien sûr il y aura une manifestation à Marseille, hein, comme chaque année, hein, c'est pas du tout depuis le 7 octobre, ça fait très très longtemps, donc au niveau international, le 29 novembre est la journée internationale en soutien au peuple palestinien, et s'organise en ce moment quelque chose à Marseille avec le collectif Marseille-Gaza-Palestine. Toutes les chansons qu'on a diffusées, en particulier cette fois celle de Letizia Giuntini, ça s'écrit L-E-E, T-I-Z-I-A, et son nom, Giuntini, J-I-U-N-T-I-N-I. On peut les retrouver sur YouTube, elles sont souvent associées à des clips. Et puis pour ceux qui vont sur Facebook, allez sur la page donc du collectif Marseille-Gaza-Palestine, qui donc prépare cette journée du 29 novembre, mais qui aussi a lancé un appel à dons pour contribuer à la poursuite des études d'étudiants en Gazaoui, des étudiants en médecine. Ils ont absolument besoin d'une bourse pour continuer leurs études, et donc il y a un appel à dons. Et puis vous retrouverez également tout ce que fait ce collectif Marseille-Gaza-Palestine avec l'association Rhizoma, vu que c'est quasiment impossible, malgré le cessez-le-feu encore aujourd'hui, d'aider les populations à Gaza. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour aider des Gazaouis qui sont hospitalisés depuis plusieurs mois au Caire, dans des hôpitaux. Alors il y a un hôpital palestinien au Caire, mais il y en a d'autres. Et donc régulièrement, des sous sont collectés et ils sont amenés directement là-bas, souvent par Régine, parfois par d'autres, là-bas, c'est-à-dire au Caire en Égypte, où là on peut vraiment aider des Gazaouis victimes de la guerre qui ont été hospitalisés. Alors l'opération se passe bien, mais ensuite ils sont comme incarcérés dans ces hôpitaux, et donc là on peut vraiment les aider. Et puis chaque jour on peut effectivement contribuer en boycottant les produits, en lisant des livres. Donc rendez-vous mardi prochain à la librairie Transit, et merci encore à Radio Galère de diffuser cette émission Une heure en Palestine. À bientôt en novembre. C'était Philippe pour Radio Galère, Une heure en Palestine. Et puis rendez-vous aussi sur notre stand de la route du Zaatar. Ciao.